Bonjour chers amis, que le Seigneur vous protège, vous conduise dans sa pensée, dans sa vérité, puisque Dieu est vérité en Jésus-Christ. Et soyez bénis. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissons l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissons-le, nous, ses enfants. Bénissons l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Dès maintenant et pour l'éternité, et voilà, bienvenue, nous sommes tous ensemble, soyez bénis, soyons tous bénis sous le regard du Seigneur. Hier dans le train, je revenais de Bruxelles, j'avais été en visite voir des personnes. Une jeune fille qui était au départ musulmane et qui a été appelée par le Seigneur à travers des songes à croire en Jésus. Et que j'ai visité, on s'est donné rendez-vous. On a dû rester 3h30 dehors sur la terrasse d'un restaurant. Il y avait juste un abri au-dessus. Il faisait froid. Et on n'a pas eu le rhume. Miracle, n'est-ce pas? On a pu parler, échanger et vraiment... Priez pour cette jeune fille qui s'appelle Nas. Je ne vais pas achever le mot pour qu'on ne la retrouve pas, Nas. C'est très important. Je lis d'abord un verset d'Ézéchiel, chapitre 13. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant et sur les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat. au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines, leurs oracles sont menteurs, ils disent l'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit. Et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous tous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils les égarent mon peuple en disant « paix » quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra et vous, pierre de grêle, vous tomberez, la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule, etc. Ézéchiel 13. Vous voyez à quel point Dieu a autorité pour dénoncer les faux prédicateurs, les faux annonciateurs, les faux prophètes. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Tout quiconque veut parler au nom de Dieu, il est prophète. Quand je vous parle, ben, en un sens, je suis prophète. Mais c'est pas pour ça que je dois faire le malin et parler à partir de mes visions à moi, de mes inspirations, de mon moi. Je crains trop Dieu pour cela. Et je vous prie, chers amis, réfléchissez toujours quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur, de Dieu, réfléchissez à 10 fois, priez le Seigneur qui guide votre parole, vos pensées. Préparez toujours ce que vous avez à dire. Soyez dans la prière avant tout pour que vous soyez agréable à Dieu, honorable lorsqu'il reviendra et agréé, accepté quand il reviendra. Nos visions ne comptent pas pour Dieu. Nos oracles ne comptent pas. C'est la parole de Dieu qui est l'essentiel, la révélation qu'il a donnée aux prophètes et aux apôtres. Ok? Donc voilà, je cadre un petit peu. Alors, je voudrais vous lire 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Et suivant. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Nous voyons ici que Paul est humble. Il dit qu'à certains moments, Satan fait obstacle à son amour pour aller voir, pour visiter des chrétiens, pour visiter des disciples du Seigneur. Il n'est pas au-delà de Satan. Il doit être toujours derrière Jésus-Christ. Il doit toujours être humblement en Christ. Et Dieu lui permet, au jour et à l'heure qu'il faut, par le chemin qu'il faut, d'aller voir les frères. Mais on ne fait pas la lutte contre Satan par soi-même. Et on ne sert pas Dieu, on ne sert pas Jésus-Christ et l'Évangile, en croyant qu'on peut faire le malin, et c'est-à-dire en se heurtant à Satan et en croyant qu'il va déguerpir. Il agit puissamment aujourd'hui. Donc, il est mis clairement ici, dans cette parole, que Satan nous en a empêché. C'est pas tout seul. Paul n'est pas tout seul. Il y a donc d'autres personnes avec Paul. Et ça peut être Silas, ça peut être Timothée, ça peut être Sosthène, ça peut être beaucoup d'autres. Il avait, j'ai remarqué, ça j'ai compté, il avait 24 collaborateurs. Donc, suivant les endroits, et c'était vraiment une richesse que d'avoir trouvé des hommes qui s'engageaient pour l'Évangile à sa suite, surtout à la suite de Jésus-Christ. Alors, verset 19, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19, « Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ?» Ah oui, sur terre, là, en prison régulièrement, tabassé, lapidé, houspillé partout, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Alors je répète, quelle est en effet notre espérance, notre conviction, notre certitude, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous voyez que le bonheur de Paul est, à travers toutes les persécutions subies, les difficultés, les grandes difficultés offertes par les hommes ou offertes par Satan, eh bien, la joie de voir des fidèles, des disciples, des frères qui aiment le Seigneur et qui marchent avec le Saint-Esprit dans la parole de Christ. C'est sa joie. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Eh bien, si vous avez accepté Jésus, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes aussi, pour moi, une gloire, c'est-à-dire quelque chose de magnifique, ça vient de Dieu, vous êtes une joie. Et, bien sûr, si vous n'êtes pas encore converti, vous pouvez un jour être couronné de gloire et de joie en Jésus-Christ. Lâchez tout, donnez-vous au Seigneur Jésus. Alors, je vais aller dans chapitre 3, verset 6. Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Quand on parle de souvenir, ça veut dire un attachement profond, hein, une communion. C'est pas seulement une carte postale, un souvenir, hein. Alors, il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Donc c'est véritablement l'expression d'une communion. En conséquence, frères, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Nous vivons, c'est-à-dire, je suis fortifié, je suis fort en Christ, parce que je sais que vous, frères et sœurs, vous vivez dans le Seigneur, fermement, avec fermeté. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Chers amis, priez pour qu'il y ait des jeunes qui deviennent pasteurs, priez pour qu'il y ait des jeunes qui s'engagent, s'il vous plaît, et qui soient de cette trempe-là, qui vivent comme ça, qui vivent la même dimension dans le ministère. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc, c'est un grand docteur de la foi, Paul. Et allié à Sostène, Timothée et d'autres, il peut enrichir les chrétiens par des explications, des approfondissements de la révélation que Christ a fait aux apôtres, aux 12 apôtres. Ils étaient les dépositaires de ce dépôt de la foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Donc, vous voyez pourquoi Satan n'a plus rien à dire. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Je répète au verset 12, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Vous imaginez le programme, hein? La sainteté, c'est un don de Dieu, hein, finalement. C'est pas le fruit de nos efforts, oui, de notre obéissance dans la foi, dans la grâce. Dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Nous voyons que le retour de Jésus est un thème majeur de la prédication de Paul. C'est un thème majeur. Alors, Au reste, frères, chapitre 4, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, vous imaginez, c'est une éloge. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Rendez-vous compte, à travers toutes les difficultés du christianisme du départ, il y a un enrichissement pour ces chrétiens-là. Nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dans la difficulté et l'épreuve, les progrès sont considérables. Dans la facilité, la décadence est considérable aussi. Verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté, votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, de tous les dérèglements, hein, en tout genre. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et oui, le corps. Le corps a ses ordonnances, ses lois, ses instincts, ses compulsions, ses obsessions, ses fantasmes. Eh bien, il tend toujours à guider notre esprit, notre âme. Eh bien, chez le chrétien, le combat est inégal. Car nous sommes faibles. Il faut donc recourir à Jésus-Christ. Il faut s'incliner dans la prière et lire la parole de Dieu et demander à Christ de devenir fort en lui, fort par son Saint-Esprit, fort par sa parole, pour faire face à cette nature déchue que nous avons héritée. Et c'est pas rigolo des fois. Ce que Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, c'est-à-dire de mensonge, d'usurpation, de vol, et de cupidité dans les affaires. Ah, l'amour du fric, hein, le vice de l'argent, et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, ni à la cupidité, mais à la sainteté, à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un a vraiment cru en Jésus, il a reçu l'Esprit Saint, c'est clair. Je vais dire, chers amis, on ne peut pas mesurer la qualité du salut de quelqu'un à son comportement. Il peut avoir de graves défauts, des travers, et pourtant avoir cru en Jésus-Christ, l'avoir accepté et avoir reçu le Saint-Esprit. Le problème du chrétien, un, il est sauvé par grâce, deux, le salut n'est jamais retiré, trois, l'obéissance n'est pas facile. Et le combat pour obéir n'est pas simple. Et dans le fur et à mesure du temps, c'est dans l'humiliation, dans des péchés qu'on commet, des égarements qu'on commet, des désobéissances au Seigneur, dans cette humiliation, quand on en rougit intérieurement, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de l'aide du Seigneur. Et là, comme dit Paul, l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. Dieu vient en aide à notre faiblesse. Le chrétien qui avance ne peut pas se croire tout le temps un matamor. Ça finira par la faiblesse. Et dans la faiblesse, il va reconnaître un relèvement. Il va voir un relèvement. Il va voir l'effet de la résurrection de Christ en lui. Il va voir la force de l'Esprit Saint. Et il va progresser. Mais toute personne qui croit en Jésus-Christ finit par aboutir à découvrir ses faiblesses, sa grande faiblesse et la grande nécessité de dépendre du Seigneur. Vous savez, dans Jean, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Hein? Vous ne pouvez rien faire sans moi. » C'est dans Jean, ça. Vous pouvez rien faire sans moi. Rien être. Donc, si vous aimez le Seigneur, faites-lui confiance, déposez-lui votre confiance. Et chers amis, c'était le message de départ. Le message de départ, après je reviendrai à la Bible. J'avais plusieurs communications à vous dire. Je vais bientôt faire une lettre de nouvelles à tous les donateurs et à tous ceux que j'ai visités à Paris, à droite et gauche. Et il y a des grands sujets de prière. Alors, je voudrais vous remettre un sujet de prière très important. C'est la santé du pasteur John Clayton. Ça fait plusieurs mois qu'il est gravement malade, quasiment mort sur son lit, et il est debout, et il commence à remarcher, à s'habiller, et je le vois sur mon smartphone. Dieu a répondu aux prières, Dieu a répondu aux supplications. Je vous en prie, priez tous les jours pour John Clayton. C'est un homme riche de cœur, riche, avec une immense connaissance de la Bible. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il vienne travailler avec nous dans notre région. Il procurerait un enseignement et il formerait des disciples. Je n'ai pas toutes les capacités, je n'ai pas toutes les compétences. Je n'ai jamais voulu prétendre à ça. Au point de départ, à 45 ans, quand j'ai fini l'institut, j'attendais sa venue pour venir m'aider. Mais j'aimerais bien d'avoir un collaborateur de son niveau pour former de véritables disciples, pour la poursuite, la continuité du travail qui a été commencé ici. Et qui n'est pas mon travail, ni celui de ma femme, de mes amis, c'est le travail du Seigneur Jésus. Je n'ai fait qu'obéir. Ce pasteur directeur avait prié avec d'autres pasteurs, et à la fin des études, il m'avait dit, écoute, nous avons prié, tu dois travailler sur la frontière auprès de chez toi. Et tu dois, l'évangile n'a pas été annoncé. Il faut travailler là. Ça sera très difficile, mais nous avons prié pour toi, c'est ça que tu dois faire. Et je vous garantis que c'était dur pour moi d'encaisser ça parce que je rêvais d'aller dans des églises, il y a des bâtiments, il y a des groupes de jeunes, etc. Partir avec ma femme et mes enfants loin d'ici. Eh bien, j'ai pas pu. L'obéissance réclamait ça. Et la deuxième chose, c'est que ce pasteur qui devait venir m'aider n'a pas pu venir. Il a eu des croche-pieds épouvantables dans sa vie privée, de vie de famille. Il en a beaucoup souffert. Mais si Dieu le relève, il lui donne la force de revenir. Quel bonheur pour nous ici. Car c'est un puits de science, avec un cœur immense, un sens de l'écoute, une expérience de la vie, de la souffrance. Donc, John Clayton, priez pour lui. Priez pour son relèvement complet. Complet. Et je vais dire que Dieu a déjà commencé. J'ai un autre ami pour lequel je vous demande de prier. Baudouin. Baudouin qui habite à 6-7 km d'ici, qui a la fibrose pulmonaire, qui est lourdement accablé par sa fibrose, qui est soigné par Liège, par Montgaudine et qui a un problème, comme beaucoup de Gourmets ici. Dans son village, ici, pas loin, 6 kilomètres, il y a 4 ou 5 personnes qui ont de graves maladies respiratoires. Et vous n'êtes pas sans le savoir, à Montgaudine, à Liège, on sait, dans la vallée de la Vire et du Thon, il y a 7 fois plus de maladies pulmonaires que dans le reste de la Belgique. Et qu'il y a 30% d'enfants morts-nés en plus que dans le reste du pays. Chers amis, certaines industries qui sont dans nos vallées produisent des gaz toxiques, des particules qui détruisent les poumons. Et je vous demande de prier pour Baudouin, qui est avec qui je partage la Bible, je prie, qui est un grand ami.